France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Christelle Rebière.
Il faut cultiver notre jardin. À la faveur du Covid, les Français ont redécouvert la phrase du Candide de Voltaire. Planter, semer, biner, gratter ou encore tailler. Près d'un foyer sur trois possède désormais un jardin potager. Se nourrir, mais plus souvent encore, avoir envie de beau. C'est le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire qui dure jusqu'à début novembre qui nous a donné l'envie de pousser ce soir la porte du vôtre. On est entre esthétique et botanique, entre créativité et poésie parfois. Et aujourd'hui, chacun son jardin. Alors, vous, vous êtes plutôt japonisant ou jungle en mode permaculture. Et d'ailleurs, comment choisissez-vous vos végétaux? C'est comme de la haute couture écologique. Il y a des modes, des styles, avec parfois le retour de certaines variétés vintage. Comment adaptez-vous votre espace vert au changement climatique? C'est aussi une question intime. Jardiner modifie notre rapport au temps et à nous-mêmes. Voltaire, encore lui, écrivait dans Candide « Le jardinage nous éloigne de trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin ». Alors laissez-nous entrer dans votre jardin secret ce soir, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et je salue nos invités dans ce studio. Chantal Colleux-Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes la directrice du domaine et du festival de Chaumont-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, connu dans le monde entier. Bonsoir Hervé Brunon.
Bonsoir.
Historien des jardins, des paysages et de l'écologie, directeur de recherche au CNRS. Et bonsoir à vous, Alain Baraton.
Bonsoir.
Que vous connaissez bien, auditeur de France Inter, Alain, jardinier du château de Versailles, et à qui vous posez toutes vos questions le week-end dans la main verte.
Sans interruption.
Voilà, et ce sera d'ailleurs à 7h40 ce week-end.
Tout à fait.
Alors, on a un message qui nous est arrivé via WhatsApp de Roland. Il nous écrit, nous dit qu'il est issu de grands-parents et parents jardiniers. Dès que j'ai eu ma maison, j'ai commencé le jardinage. C'est pour moi vital. Ça me détend, ça me vide la tête et m'évite, entre parenthèses, de ruminer le travail. Manger ce que l'on produit me donne un sentiment d'autonomie. D'autonomie et de liberté. Je sais ce que je mange. C'est un pur bonheur d'être les mains dans la terre, de voir les oiseaux, papillons, bourdons, coccinelles. Cela me permet aussi d'avoir un contact privilégié avec la nature, de connaître la saisonnalité des légumes et fruits, de voir les effets du changement climatique, de constater l'effondrement de la biodiversité. C'est une vraie thérapie contre la morosité. Est-ce que vous diriez la même chose, Chantal Colleux-Dumont ?
Absolument, je pense que le jardin, c'est le meilleur antidépresseur qui soit.
C'est d'ailleurs reconnu par des études scientifiques. Hein.
Absolument.
On dit que ça fait du bien.
C'est un lieu d'apaisement, de ressourcement, c'est un lieu de bonheur, de contact avec le beau. Et dans les sociétés difficiles dans lesquelles on vit, je pense que le jardin joue un rôle tout à fait important. Nous avons besoin d'harmonie, nous avons besoin de cette symphonie d'essence que nous offre le jardin, puisqu'un jardin touche l'odorat, l'ouïe, la vue, enfin tous les sens. On est en immersion dans un lieu merveilleux.
Et on s'ouvre aussi.
Et on s'ouvre et on s'apaise. Nous voyons bien quand nos visiteurs arrivent, souvent le matin, ils sont un peu stressés. Et après quelques heures, après une promenade au milieu des arbres, au milieu des jardins, au milieu des fleurs, ce ne sont plus les mêmes. Donc nous avons vraiment besoin du jardin dans notre quotidien, mais 80% des gens vivent en ville. Donc, il faut que nous travaillions tous à ce retour au jardin.
Mais 80% des gens vivent en ville, mais Hervé Brunon, même sur les balcons maintenant, même sur un simple balcon, on essaie de faire quelque chose.
Oui, et puis on a
plus
aussi
qu'avant.
Beaucoup plus, et puis on a ces nouvelles formules comme le jardin partagé qui s'est énormément développé à partir des années 2000. Donc dans beaucoup de villes françaises, on a des espaces qui sont gérés par des associations et qui permettent aux riverains, aux habitants de jardiner.
Qui n'ont pas de jardin, d'avoir
leur bout de potager, c'est de ça. Se croiser aussi autour du jardin, d'échanger des graines, d'échanger des savoir-faire. Donc le jardin est un lieu de rencontre aussi.
C'est un lieu où il y a un lien social, si j'ose dire.
Absolument, et dans certaines situations difficiles, il y a des jardins d'insertion, il y a des jardins dans des prisons. Le jardin aide à se sentir mieux dans toutes les situations possibles.
Il vous fait du bien, vous aussi, le jardin, Alain Baraton?
À moi et à tous ceux que je recrute. Et à propos d'insertion, dois-je vous rappeler que Versailles, qui est un domaine connu de tous, accueille en son sein les travaux d'intérêt généraux. Tu sais, ce sont ces garçons un petit peu turbulents qui commettent quelques dégâts sur la voie publique. Ils ont une peine à venir effectuer pour payer justement leur dette envers la société. Ils viennent à Versailles. Depuis 20 ou 30 ans, j'ai donc reçu des centaines de travaux d'intérêt généraux. Aucun incident à déplorer. On a même des jeunes gens qui ont trouvé la vocation. Donc les jardins me font du bien à moi. Ils font du bien aux travaux d'intérêt généraux et à tous ceux qui travaillent. Je voudrais simplement, si vous le permettez, rajouter une phrase. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez cité deux fois Voltaire.
Oui.
Je vais le citer une troisième fois. Oui. Voltaire disait aussi, jardinier, le plus noble des métiers. Et je voudrais également dire ma joie d'être avec Chantal Collot-Dumont, parce que cette femme a fait partie de celles qui ont déringardisé le métier qui est le mien. Le jardin a trop eu, trop longtemps, cette image de l'activité réservée aux oisifs, aux retraités, à ceux qui n'ont pas grand-chose à faire. Et quand on va à Chaumont-sur-Loire, quand on voit les jardins éphémères qui ont été créés pour l'occasion, quand on voit le niveau atteint par les personnes qui contribuent à cette manifestation, on est épaté. Donc j'en profite, Chantal, pour vous dire combien la profession vous doit.
Merci beaucoup Alain.
Alors justement, on parle deux secondes du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Ça dure jusqu'au 2 novembre. Ça fait 33 ans quand même.
Oui.
Dédié à la création, à l'imagination. Alors cette année, c'est sur le thème « Il était une fois un jardin », donc autour des contes de fées. Ça ressemble à quoi concrètement pour ceux qui n'y sont pas allés ?
Après beaucoup de thématiques liées à l'écologie, sur la résilience, sur le biomimétisme, il m'a semblé important d'aller vers l'univers du rêve et de voir comment on pouvait solliciter l'imaginaire des paysagistes, mais aussi des architectes, des designers qui conçoivent ces jardins venus du monde entier. Et donc on a des jardins venus d'Inde, on a un jardin qui s'appelle Rhapsody Malayenne, qui est un très beau jardin blanc et bleu qui nous plonge dans les mythologies indiennes. On a un jardin qui a été créé par des paysagistes brésiliennes qui évoquent les dieux de la forêt. On évoque les légendes du roi Arthur. Ce sont des jardins qui, à la fois, sont esthétiquement très intéressants, mais qui sont plastiquement remarquablement réalisés. Et Chaumont, c'est un laboratoire des tendances du jardin. Et chaque année, nous sommes surpris par la qualité des propositions végétales, par la qualité des nouveaux matériaux qui sont utilisés et des scénarios qui sont proposés. Donc, ce sont certes des jardins éphémères, mais ils durent 6 mois et s'éveillent au printemps comme tous les jardins, et ils s'endorment en hiver, et on conserve tous les végétaux.
Mmh. Vous parliez de tendances. Il y a des tendances maintenant, Hervé Brunon ?
Il y a toujours eu des tendances. C'est que le jardin fait partie de ces phénomènes sociaux qui reflètent l'état de la société, l'état des aspirations sociales de certains groupes. Donc, il y a, je dirais que le jardin a une forte dimension identitaire. Dis-moi, quel est ton jardin
et je te dirai
comment
tu es.
Oui, il y a cette idée-là qui traverse un peu toute l'histoire. Donc, il y a des jardins qui...
Ça remonte à quand, puisque vous êtes un historien?
Alors, le début des jardins, c'est un peu le mystérieux. Les premières attestations documentaires, c'est 3000 avant Jésus-Christ. C'est notamment un vase qui est conservé à Bagdad, qui vient de la ville d'Uruk, une ville sumérienne. C'est à peu près 3000 avant Jésus-Christ, une représentation très stylisée de jardin. Mais on suppose que les jardins ont commencé avant, au néolithique, au moment où on a commencé à domestiquer les plantes. Et certains spécialistes présument même qu'on a jardiné avant de faire des champs, que le jardin est la plus ancienne forme de culture des végétaux par l'homme qui domestique les plantes.
C'était avant les potagers?
Le potager serait le premier jardin, peut-être, en l'occurrence.
Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi. Vous avez dit, le jardiner, Alain Baraton, a changé d'image. Jusqu'à quand c'était pas très bien vu, au fond, de jardiner?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'être à Versailles depuis une éternité. Et je me souviens très bien, quand j'y suis rentré, que les jardiniers étaient majoritairement des hommes. Quand j'allais dire majoritairement, il n'y avait que des hommes. Et les jardiniers qui venaient étaient des personnes qui, ne trouvant plus de travail à la ferme, eh bien, se rabattaient sur le travail de terre dans la ville. Aujourd'hui, les jeunes gens qui m'entourent viennent de France et d'Italie. Ils sont extrêmement diplômés, ils sont engagés. Ils ne font pas ce métier parce qu'il faut faire un métier, ils le font parce qu'ils ont choisi d'être jardiniers. Il y a une volonté manifeste aujourd'hui de devenir jardinier. Quand j'observe le comportement des jeunes gens aujourd'hui qui viennent visiter Versailles, ils s'intéressent aux plantes, à leurs origines, à leurs complications en termes de production. Il n'y a pas du tout la même relation entre le jardin d'aujourd'hui et hier. Hier encore, les familles se contentaient de se prendre en photo avec des sourires parfois béats devant la perspective. Aujourd'hui, la photo, on touche un arbre, on en serre un arbre pour montrer le lien affectif qu'on a avec ce vieux végétal. On se renseigne auprès des jardiniers. Il est même devenu très chic à Versailles de se faire prendre en photo avec les jardiniers. Non, non, l'image du jardinier en 50 ans à peu près a changé, mais de manière considérable.
Il y a aussi quelque chose d'affectif avec les végétaux, Chantal Collet-Dumont.
Oui,
Alain.
Je pense que je vais répondre à votre question, mais je voulais aussi mettre en évidence que les jeunes jardiniers aujourd'hui sont des gens qui sont heureux d'avoir un métier qui a un sens. La génération qui arrive a besoin de donner du sens à sa vie. Et être jardinier aujourd'hui, c'est à la fois, en effet, contribuer au bonheur des gens par l'esthétique, c'est apprendre aux gens à se nourrir, mais c'est aussi avoir ce respect écologique qu'on n'avait pas tout à fait avant. Quand je suis arrivée à Chaumont, les jardiniers étaient un peu moins engagés que ne le sont les jardiniers qui ont 30 ans maintenant, qui s'intéressent à toutes les problématiques écologiques.
Mais là, vous parlez des jardiniers professionnels ou de chacun d'entre nous qui cultive son petit lopin de terre dans
son petit pense coin. Que chacun d'entre nous est sensible à tout ce qui est dit aujourd'hui et qu'on fait extrêmement attention aux végétaux qu'on utilise, aux végétaux qui vont résister au réchauffement climatique. Il y a vraiment une évolution et je pense que Chaumont contribue à donner des idées, puisque notre devise c'est « venez piquer nos idées », mais il n'y a pas que Chaumont. Ouais. Tous ceux qui, en France, sensibilisent les gens à l'idée de jardin, à la possibilité de faire un jardin, jouent un rôle très très important. On a besoin des jardins, on a besoin des arbres. Je dis toujours que les arbres sont des climatiseurs naturels. Mmh. Il faut les planter pour penser à demain. Bien les planter en faisant attention, en ne faisant pas n'importe quoi.
Il y a une sensibilité collective aujourd'hui, effectivement, Hervé Brunon. Vous le constatez?
Il y a une.
Alors on a. Qu'est-ce qui a changé? Et est-ce qu'il y a eu une rupture vraiment depuis le Covid?
On a beaucoup parlé de cette rupture, de ce retour à la terre au moment du Covid et du confinement. Je pense que c'est vrai à une certaine échelle, mais quand on regarde les choses un peu plus loin, il y a des va-et-vient. Il y a eu une vraie césure, une vraie coupure en matière de jardin en France, en Italie, en Espagne, peut-être pas en Angleterre, entre la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 70, et puis du fait de la conscience écologique, de l'avènement des loisirs, de certaines mutations sociales, il y a eu une sorte de retour au jardin. C'est une expression très belle qu'employait un philosophe italien qui s'appelle Rosario Assunto, retour au jardin, dans les années 80. Et le retour au jardin, il n'est...
Dans les années 80
Début des années 80. Il ne s'est jamais vraiment terminé. Alors c'est très net, par exemple, quand on regarde la commande publique. On parle de jardins privés, mais il faut s'intéresser aussi aux jardins publics, qui sont très importants. Il y a eu très peu de grands jardins publics qui ont été créés pendant les Trente Glorieuses, alors qu'en revanche, vous avez dans les années 80, la Villette à Paris, le parc Citroën, et beaucoup, beaucoup d'autres exemples, à Barcelone aussi, dans d'autres capitales et villes.
Et comment vous l'expliquez, ça?
Du fait, ce que j'évoquais à l'instant très rapidement, la conscience écologique, le fait qu'on a eu un souci en matière de qualité de vie, on a compris que la qualité des espaces était importante, alors qu'on était auparavant dans une logique de zoning, il fallait des lieux pour habiter, des lieux pour travailler, puis les lieux pour contempler, comme le sont les jardins, on les avait un peu oubliés, on les avait un peu laissés en marge. On parlait d'espaces verts, les espaces verts, c'est des espaces qu'on colorie en vert sur les plans urbanistes, qui n'ont pas de fonction plus particulière. Donc il y a eu, dans ce sens-là, un vrai retour au jardin et aux valeurs qui sont véhiculables par le jardin, qui sont très diverses.
Et il y a d'ailleurs une espèce de fête qu'on appelle le rendez-vous au jardin, chaque année au mois de juin, Alain Baraton. Mais,
et pardonnez-moi, il y a quantité de fêtes partout en France. C'est là la manifestation Rendez-vous au jardin, initiée par le ministère de la Culture, oui, attire chaque année des millions de visiteurs. Il n'y a pas un jardin de vide au printemps et en été, pour peu qu'il fasse beau. On n'a pas idée de l'engouement des jardins. Mais juste pour rappeler le changement de mentalité. Quand j'ai débuté sur cette antenne, les personnes qui m'interpellaient pour me poser des questions, je ne me moque pas bien sûr, s'appelaient prioritairement Jacqueline Morissette ou Daniel avec deux L. Aujourd'hui, c'est Léa, c'est Chloé, c'est Justine. Cela veut dire qu'il y a un rajeunissement incroyable de la population dans le monde du jardin. Et sans piter la question sur comment récolter mes pommes de terre ou faire durer mes poireaux a été changée. Comment entretenir un arbre sans le faire souffrir, comment garder le plus longtemps possible la plante verte qu'adorait ma mémé, etc. Il y a effectivement un lien affectif. Le jardin est devenu une activité vraiment à part entière et un lieu de justement social où tout le monde se réunit. Le jardin est, je crois, peut-être l'une des seules activités qui est une activité de partage. On ne jardine pas pour soi. Quand on a un potager que l'on y produit de merveilleux légumes, le bonheur, c'est de les offrir, c'est de faire partager. Y a-t-il plus beau geste que d'offrir un bouquet de fleurs, des fleurs qui viennent de votre propriété? Et faites l'expérience, Christelle. Regardez les gens qui se promènent dans la rue avec un bouquet de fleurs. Eh bien, vous verrez qu'on ne les regarde pas comme s'ils n'en avaient pas. C'est assez étonnant, l'attirance des fleurs et du végétal.
Bon, une activité de partage, vous confirmez donc, Hervé Brunon?
Oui, une activité de liens, de rencontres, de transmission aussi, parce que ça c'est quelque chose de très important. On parle de cette question du retour au jardin et de la manière dont les gens reviennent. On a eu une sorte d'oubli, certes, parfois on parle souvent de ce passage d'une génération, on a sauté une génération, c'est le jardin des grands-parents. Le jardin des parents, il n'est pas très présent en fait dans les discours, dans les témoignages. Donc il y a des gestes qu'on reconquiert.
Donc il faut tout réapprendre en fait.
Réapprendre, souvent. Et là, les ressources du numérique sont extraordinaires. Il y a des tutoriels sur les plateformes comme YouTube. On peut apprendre comme ça à faire les gestes qui sont immémoriels.
Les gestes ancestraux et qu'on a fini par oublier, tout simplement. Allez, on va prendre Annie au téléphone. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Je voulais vous faire part d'un super projet qui a émergé après le Covid à la ville de Nantes, qui s'appelle les paysages nourriciers. Ces paysages nourriciers sont des jardins qui ont été mis en place dans les quartiers prioritaires, notamment au pied des immeubles. Et quand j'entendais votre intervenant là parler de partage, donc c'est animé par une association, il y en a aujourd'hui 26, où c'est multiculturel, c'est très intéressant. On découvre le jardin, les gens découvrent à jardiner les produits de saison, à se rencontrer. Donc il y a aussi du lien social, des gens peuvent être isolés, ils descendent. Il y a toujours des animations autour de ces jardins. En plus, on parle de nutrition. Quelles sont les valeurs nutritionnelles des produits de saison, aussi comment les cuisiner. Et ces personnes qui apprennent comment les cuisiner, ce sont les habitants et les habitantes qui ensuite fournissent un guide de cuisine.
Ah oui, c'est génial.
Donc, on est vraiment dans le partage, on est vraiment dans le lien social, la pédagogie aussi du jardin. Ces jardins sont aussi visités par les écoles élémentaires de la ville de Nantes, donc c'est aussi apprendre aux enfants qui viennent aussi dans les jardins avec leurs parents, leurs amis. Et c'est au pied des immeubles, il y en a aujourd'hui 26. Et je voulais vraiment présenter ce projet-là parce que je pense que dans toutes les villes, il devrait y avoir apprendre à jardiner, ce qui permettrait certainement aussi de mieux acheter local, aller dans les marchés et manger de saison. Réapprendre à manger de saison et le faire ensemble, c'est vraiment un partage communautaire, de la santé communautaire et puis le lien social, le bien-être d'être ensemble.
Et ça se passe à Nantes. Merci nous de nous l'avoir dit, Annie. Apprendre à jardiner, on le fait quand même aussi de plus en plus dans les écoles. Alain Baraton, il y a des petits jardins maintenant dans les cours, dans les coins.
Il y a un frémissement. Ce n'est pas encore le maximum, mais il y a un frémissement. Et effectivement, de plus en plus d'écoles maternelles permettent aux enfants de présenter des jardins et de produire quelques végétaux. Mais je voudrais revenir sur ce que disait cette auditrice.
Annie.
À Paris ou dans toutes les grandes villes, il y a des jardins partagés absolument extraordinaires. Et je trouve ça merveilleux quand on les découvre, quand on les visite, de voir des familles originaires de tous les pays du monde assises sur le banc. Alors j'adore le banc parce qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux. Pour moi, le banc est la plus belle invention de réseau social. Quelqu'un un jour s'est dit, je vais inventer un siège pour permettre plusieurs fessiers côte à côte. Ils vont converser ensemble. C'est une invention géniale. Et vous avez ces jardins partagés où on partage les récoltes. C'est merveilleux. Et j'observe que quand il y a des troubles avec des émeutes, les jardins ne sont jamais endommagés. Preuve en est que même les gens les plus révoltés respectent les jardins. Donc, le jardin, c'est l'école de partage. Et les écoles, effectivement, sont en train de se mettre à présenter des petits jardiniers. Quantité d'écoles viennent maintenant visiter les jardins. Je pense qu'à Chaumont-sur-Loire, et je l'espère, il y en a beaucoup, mais il est vrai que recevoir des écoles pour leur montrer ce que nous faisons est merveilleux. Hier, à Versailles, il y avait des milliers de jeunes gens des banlieues dites défavorisées. Bien voir tous ces petits gamins avec leurs casquettes de la même couleur découvrir des jardins, et quand on leur explique que cet arbre, il a 200 ou 300 ans, quand on voit les yeux qu'ils ont, on se dit qu'on fait vraiment un métier merveilleux.
Le jardin, on le fait pour soi ou on le fait pour les autres, Chantal Colleux-Dumont ?
Je crois qu'on le fait bien sûr pour soi, pour être en accord avec le monde et avec soi-même, mais on le fait aussi beaucoup pour les autres. Et nous, à Chaumont, on le fait pour déclencher l'émotion esthétique, le bonheur que j'évoquais tout à l'heure, pour sensibiliser les enfants. On reçoit énormément de groupes scolaires, on reçoit les enfants avec leurs parents, et également, on travaille aussi sur les jardins thérapeutiques. Je souhaiterais l'évoquer parce que à Chaumont, on a des formations qui nous permettent d'accueillir des médecins, des infirmières qui travaillent en milieu hospitalier, qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'on sait, c'est prouvé, que le jardin procure de l'apaisement. Et donc, ils viennent là apprendre comment on peut réintroduire le jardin dans ces lieux durs et difficiles que sont les hôpitaux.
Est-ce que, Hervé Brunon, il y a la même intention ? On met la même intention quand on fait un potager ou quand on a un jardin d'ornement ?
Pas tout à fait. Il y a des potagers d'ornement, il y a des très beaux potagers qui sont des jardins en eux-mêmes. La séparation entre les deux, elle n'est pas forcément toujours étanche.
Oui, parce que souvent, il y a des fleurs autour des potagers. Oui, Je me souviens que ma grand-mère mettait toujours des fleurs dans son potager.
Et alors, la finalité du jardin, elle est toujours esthétique. Il y a toujours une dimension esthétique au sens le plus large du terme. Le jardin est toujours fait pour plaire, pour rendre heureux.
Ouais.
Et il peut en plus avoir une dimension utilitaire. Alors ça peut être le potager qui est un lieu de production, ça peut être le jardin public dans lequel on peut avoir s'adonner à des activités diverses, le vélo, etc. Enfin, les circulations douces. Il peut y avoir une dimension utilitaire, mais le jardin est toujours fondamentalement lié au bien-être, au beau. À ces valeurs-là.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Nous vous écoutons. Soyez le bienvenu sur France Inter.
Merci de passer à l'antenne. Je suis très content de participer à ça et de pouvoir aussi échanger avec Alain Baraton. Oh. Moi, je voulais témoigner de mon expérience. Donc, j'ai été paysagiste pendant un quart de siècle.
Paysagiste,
oui. Oui, en création. Et c'est vrai que j'ai voulu changer de vie parce qu'en fait, l'utilisation du jardin propre chez les particuliers où on met de l'enrobé, des terrasses en bois exotiques, du gazon synthétique, des choses comme ça, n'était plus du tout en adéquation avec ma passion pour le jardin. Et j'ai changé de vie. Maintenant, je suis paysan et je m'affaire en fait à utiliser le grand jardin que j'ai pour ferme où on intègre en fait, c'est plus du coup le potager où on met quelques fleurs, mais c'est plutôt des légumes qu'on met dans le jardin. Et je trouve ça très agréable, en fait, d'avoir des pieds de tomates, de la gastache anisée, de la verveine citronnée, des courgettes qui sont à disposition dans le jardin. Et surtout, le fait d'utiliser des produits de mon territoire, comme le châtaignier, pour faire les terrasses ou les pergolas, le granit, parce qu'on est en région Pays de Loire. et en plus de ça, intégrer en fait tout l'habitat pour la biodiversité en termes de nichoirs pour les chauves-souris, pour les oiseaux, les chiens insectes, laisser déjà fleurir. Et du coup, on a un jardin qui est naturel, qui est beau, qui demande beaucoup moins d'entretien. Le jardin propre, les gens adorent aller se balader en forêt, et pourtant, elle n'est pas propre dans le sens propre du terme qui s'utilise pour leur jardin qui est propre. Et le fait de vouloir arracher tout l'herbe, de tout mettre tout lisse, ça, c'est pour moi, et c'est quelque chose qui n'était plus en adéquation avec ça. Et je trouve qu'un jardin naturel, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus enrichissant au quotidien.
Mmh. Alain Baraton, le jardin propre.
C'est parfaitement résumé. La nouvelle génération a conscience de la fragilité de l'environnement. Et notre ami a compris que pour avoir un beau jardin, nul besoin d'y mettre des produits chimiques. Moi, j'avais une maman délicieuse. Ma maman, elle avait connu la guerre. Il était hors de question que dans son jardin, quelques bestioles viennent nuire aux promesses d'une belle récolte. Elle traitait de manière démesurée. Quand on sait mon engagement pour l'environnement, j'étais quelque peu gêné. Mais c'était habituel. Aujourd'hui,
on a grandi avec ça.
On a conscience aujourd'hui de la fragilité du jardin et de la beauté du jardin. Les mentalités sont en train de changer, mais effectivement, on voit encore parfois du goudron, du gravillon un petit peu partout. Petit à petit, on remplace tous ces éléments par des végétaux. On a compris que nul besoin de dresser dans un garde-vous impeccable une culture de poireaux pour que ceci soit goûteux. On se renseigne sur les origines de la plante. On arrête, par exemple, de mettre des végétaux très gourmands en eau dans des régions peu arrosées en été. Il y a aujourd'hui une véritable recherche en termes de jardin. Terminer le jardin du père qui faisait ce que son grand-père faisait, etc. Il y a de l'innovation, il y a de la jeunesse qui a décidé vraiment de se cultiver, de cultiver le jardin vraiment différemment.
Le jardin propre, Hervé Brunon, on en voit quand même pas mal encore, hein.
On en voit par exemple en Allemagne, je pense à ces jardins secs, ces jardins de gravier qui pullulent dans les lotissements. Les mentalités tendent à évoluer, quoi. Je pense que je rejoindrai Alain Baraton sur ce point. Par exemple, on a inventé des méthodes comme la gestion différenciée, c'est-à-dire le fait que dans des grands espaces, on n'est pas forcé d'avoir toujours tout impeccable, qu'on peut fignoler, avoir des parterres, des plates-bandes très, très propres, entre guillemets, très, très sophistiquées, très élaborées près de certains endroits. Et puis qu'à d'autres moments, on laisse l'herbe monter en graines, on laisse les arbres morts, on laisse des refuges pour la biodiversité. Donc on ne traite pas tous les espaces avec la même intensité de soins.
Mm-hmm. Et la permaculture, on peut en parler parce que c'est une tendance du moment quand
même. Une tendance qui
C'est-à-dire en gros, on laisse la nature un peu se débrouiller.
On s'inspire des...
On organise
en fonction des processus naturels, on observe.
C'est-à-dire qu'on ne plante pas n'importe quoi à côté de n'importe quoi.
Non, et puis on met pas tout en rang d'oignons pour passer la charrue, comme on le faisait pendant des siècles, mais on utilise des formes qui sont des formes beaucoup plus organiques. Alors c'est pas forcément évident à conjuguer avec un souci de beauté, d'esthétique, il y a des difficultés, mais c'est avant tout le processus qui compte, le processus du vivant.
Qu'est-ce que vous en pensez de la permaculture, Alain Baraton ?
C'est un terme que j'ai très rarement employé sur les ondes d'Inter. C'est un mot qui m'échappe quelque peu, parce qu'en fait, la définition qui vient d'être donnée est exactement la bonne, sauf qu'en fait, ça correspond à ce qu'on devrait faire logiquement dans un jardin. Pourquoi donner ce terme de permaculture, alors qu'il suffit simplement de produire proprement en respectant l'environnement ? Mais je voudrais revenir sur les nouvelles tendances. Je ne suis pas du tout l'attaché de presse de Chantal Collot-Dumont, mais je voudrais rappeler
que... Permis d'en douter, ce
soir. Vous pouvez. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on parlait des nouvelles techniques. On a longtemps cru que pour se débarrasser de telle ou telle plante, il fallait tel ou tel produit et qu'il fallait employer tel ou tel matériau. À Chaumont-sur-Loire, c'est aussi un terrain d'expérimentation, de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Et les professionnels s'y rendent justement pour apprendre à faire encore plus beau tout en respectant davantage la nature. On peut faire preuve aujourd'hui d'innovation, de modernisme, avec justement les expériences menées par Chaumont-sur-Loire.
Et on s'adapte au passage au changement climatique, Chantal de Collot-Dumont.
Absolument. Nous n'avons aucun pesticide depuis plus de 15 ans. On désherbe à la binette, on n'arrose que les nuits, on n'arrose que 4 hectares sur 35 pendant l'été, et on s'adapte au réchauffement climatique avec des expériences. Par exemple, dans la cour de la ferme, nous avons remplacé les pelouses par un jardin sec. les pelouses qu'il fallait arroser pour qu'elles soient vertes et parfaites, par un jardin sec qui était fait par un paysagiste britannique qui vit dans le sud de la France, qui s'appelle James Besson. Et on a une collection extraordinaire de sédum, de thym, on a 17 sortes de thym, de sarriettes. C'est un jardin qu'on ne tombe pas, qu'on n'arrose pas, et qui est une création extraordinaire. C'est comme un tapis magique. Mmh. On a par ailleurs mis du lierre aussi, à la place des pelouses. Et on a, pour répondre à votre question sur la réponse aux difficultés de changement climatique, on a travaillé avec Bas Metz, le paysagiste qui va créer les jardins de Notre-Dame et qui a fait les jardins de la Fondation Luma à Arles, une forêt du futur où il a planté 27 arbres, 27 espèces d'arbres susceptibles de résister au réchauffement climatique. Mmh. Donc, on est en effet dans ce laboratoire, on essaie, on peut se tromper. On pratique, comme vous le disiez Hervé Brenon, la gestion différenciée. On a les prés du Guadeloupe, une immense prairie dans laquelle, au printemps, on laisse pousser les boutons d'or et les marguerites et on fait des chemins dans lesquels les visiteurs se promènent. C'est différent de ce qui se passe du côté du château, mais ça apprend aux gens que tout est possible. L'extrême, une relative perfection et un côté plus sauvage.
La pelouse, c'est une hérésie, c'est devenu une hérésie. Elle n'est pas en odeur de sainteté en ce moment, Alain Baraton, la pelouse.
J'ai toujours dit qu'une pelouse très verte en été dans la région sèche était vulgaire. À un moment donné, il est indécent, quand on sait le nombre de personnes sur cette terre qui manquent d'eau potable, de jeter des millions de litres pour que l'herbe soit verte. Et effectivement, comme le disait fort bien Chantal, il y a quantité de plantes qui remplacent très facilement le gazon. Le thym, comme vous venez de le citer, a en plus l'avantage de sentir merveilleusement bon. Le lierre permet d'attirer quantité de petits insectes qui vont pouvoir vivre tranquillement leur vie. Donc le gazon, oui, mais sans abus.
Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Oui, je vous remercie de prendre mon appel. J'habite dans l'Hérault. J'avoue que je ne fais pas plus de jardin potager, malheureusement à cause des chaleurs intempestives que nous avons. Mais par contre, j'ai 3000 mètres carrés de terrain et je laisse pousser tous les arbres qui veulent bien sortir de terre et j'ai une variété d'arbres.
Par exemple, vous pouvez nous donner un exemple, Jean-Marc, par exemple?
Oui, j'ai des figuiers, j'ai des pins d'Alep, j'ai des...
Oui, des arbres méditerranéens, de toute façon. Et vous les laissez s'exprimer, en fait. Et vous avez renoncé aux autres cultures, c'est ça?
Oui, j'ai renoncé aux autres cultures et je ne taille pas mes arbres. Je ne m'en occupe pas, les laisse...
Vous les laissez vivre, on a bien compris.
Oui, si vous me permettez, le jardin est un art. Le jardin, c'est l'aménagement du paysage. Laisser faire la nature, ça peut être très sympathique, on est d'accord, mais on s'éloigne un petit peu du métier de jardinier. Si demain, à Versailles, je décidais de laisser la nature faire ce qu'elle a envie de faire, je ne vous dis pas les conséquences. J'aime bien l'idée d'un jardin qui ne soit pas forcément aux ordres du jardinier, qui fasse preuve d'une certaine liberté, mais qui soit quand même un jardinier pensé, un jardinier voulu. Comment voulez-vous que le métier de jardinier puisse continuer à exister si on laisse la nature se développer à sa guise? Et puis, de temps en temps, bien tailler un végétal, ça lui fait quand même du bien, parce que quelques branches méritent d'être taillées, coupées, de dégager une perspective ou une vue. Le jardin est un métier, c'est un art qu'il faut absolument entretenir.
Et Versailles, c'est quand même le jardin du pouvoir.
C'est le jardin du pouvoir, pas seulement, c'est aussi le jardin de la liberté. Louis XIV a fait un jardin d'autorité, effectivement. Il montre que la nature est capable...
Il a modelé le paysage, il a voulu montrer que c'était selon son bon vouloir, que c'est une façon d'imprimer sa puissance.
Tout à fait, mais quand Marie-Antoinette, en 1774, monte sur le trône et qu'elle veut s'éloigner justement des rigueurs de la cour, que fait-elle? Elle demande à son jardinier de lui créer une sorte d'île végétale merveilleuse où elle pourra s'isoler et vivre à sa guise. C'est le domaine du Petit Trianon. un lieu merveilleux. Le jardin, source de pouvoir, mais aussi source d'évasion. Aller dans le jardin de Pamplemousse, dans des terres lointaines, aller à Chaumont, aller à Villandry. Vous avez des jardins, effectivement, d'autorité, mais aussi parfois de grande liberté.
Mmh. On connaît les jardins à la française, il y a eu les jardins à l'anglaise, à l'italienne, les jardins exotiques. Est-ce qu'il y a une mode aujourd'hui ? Il y a eu les jardins japonais qui ont été à la mode aussi il y a quelques années. On a l'impression que c'est passé.
Les jardins japonais, ils ont été redécouverts en Europe au moment du 19e siècle, au moment de l'ère Meiji.
Oui.
Les premiers jardins japonisants, je pense par exemple au jardin Albert Kahn à Boulogne. Il y a beaucoup d'exemples comme ça de jardins qui étaient d'inspiration japonaise. Alors, je dois dire, ces étiquettes à la française, à l'anglaise, il faut toujours les manier avec beaucoup de précautions parce qu'on croit que ça ouvre
des portes. Non, mais c'est vrai ou faux ?
C'est plus compliqué que ça. C'est à la française, par exemple, a été vraiment le style à la française a été modelé, a été inventé à proprement parler entre la défaite de 1870 et la guerre de 14, au moment où montent les nationalismes. Il y a une dimension très patriotique dans cette identitaire, idéologique dans cette appellation qu'il faut avoir en tête.
Bonsoir Valérie. Est-ce que vous nous entendez, Valérie?
Très bien.
Oui, soyez la bienvenue.
Merci.
Vous voulez nous parler des jardins thérapeutiques, c'est ça ?
Oui, j'ai envoyé un message parce que, bon, évidemment, je suis passionnée de jardin, mais je suis aussi hortithérapeute, c'est-à-dire que j'utilise le jardin comme un acteur de soins.
Expliquez-nous.
Le jardin soigne celui qui le soigne. Et le jardin peut être un espace où on accueille des gens en difficulté, des gens vulnérables. Et on utilise le jardin, la nature dans son acceptation la plus large, comme un acteur de soins, comme une intervention non médicamenteuse.
Vous pouvez nous donner un exemple ?
Alors, un exemple de quelqu'un qui est en difficulté, qui a perdu confiance en lui-même et qui a perdu un petit peu espoir en son corps ou dans son esprit, eh bien, quand il sème des graines et qu'il les voit pousser et qu'il voit que la vie et le vivant est bien présent, eh bien, il peut ressentir une sorte de réassurance en lui-même et de croyance envers le vivant, en tout cas. Donc, c'est porteur d'espoir et de positivité, en tout cas.
Mmh. Et ça se développe aujourd'hui ?
Alors, oui, ça se développe, puisque bon, il y a un métier qui n'est pas tout à fait encore reconnu en France, qui s'appelle l'hortithérapie, enfin une discipline non médicamenteuse. Il y a une fédération nationale, Jardin Nature et Santé, qui est très active et qui organise la formation et le développement des jardins de soins dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les lieux où les gens ont besoin de se reconnecter à la nature, puisqu'on sait qu'on a perdu aujourd'hui ce lien à la nature, qu'on a perdu l'expérience de la nature, et qu'aujourd'hui, il est assez facile. Et puis, j'insiste souvent en disant que le jardin, c'est pas cher, c'est-à-dire que c'est un accès assez facile. Et c'est pas très cher de mettre un jardin en place et ça serait dommage de s'en passer.
Mmh. Merci Valérie. Valérie nous dit le jardin soigne celui qui le soigne. Chantal Collet-Dumont, c'est une phrase magnifique.
C'est magnifique, en effet. Lorsqu'on est dans son jardin, on se sent immédiatement bien. On trouve un bonheur qu'on a du mal à trouver ailleurs parfois. Et nous, pour faire référence à ce que disait cette auditrice, nous avons eu le cas d'un enfant autiste, parce qu'on avait travaillé avec l'hôpital de Blois, avec des enfants en très très grande difficulté. Mm-hmm. Et bien, dans nos jardins, dans la réalisation d'un jardin, on a eu un cas de franchissement d'un palier, je ne sais pas spécialiste de ces sujets, d'un enfant qui, grâce au jardin, a avancé pour résoudre ses problèmes. Donc, on se soigne et on soigne les autres.
La thérapie, Alain Baraton ?
Elle est prouvée. Aux États-Unis, des expériences ont été faites et il a été prouvé que des personnes qui étaient vraiment en souffrance de problèmes psychologiques ou psychiatriques obtenaient un taux de soulagement ou de guérison beaucoup plus rapide quand ils étaient traités dans un environnement boisé. Ce sont des études scientifiques qui ont été reconnues. Mais il suffit simplement d'aller dans un jardin, observer un jardin parisien sur le trottoir, sur le bitume. Les Parisiens courent d'un point à un autre. À peine sont-ils rentrés dans le jardin, qu'il marche posément, il parle moins fort et les enfants retrouvent le sourire. C'est visible aux Tuileries, au Luxembourg et dans tous les squares de la capitale.
Le fameux paysagiste Gilles Clément dit « Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et d'éternité. » On s'inscrit aussi dans un autre espace-temps et c'est ça qui nous fait du bien, Alain Baratheau.
Oui, Gilles Clément qui est l'inventeur du jardin en mouvement et c'est lui qui a donné la petite touche moderne qu'il avait bien besoin pour ce métier qui est le mien.
Hervé Brunon, vous partagez cet avis?
Complètement, oui. Il faut, le jardin est un lieu où le présent s'éternise, comme dit Michel Tournier dans un très beau texte.
Chantal Collot-Dumont.
Il y a une définition que j'aime beaucoup et qu'on cite souvent, c'est le jardin, c'est une parcelle et c'est la totalité du monde. On trouve ce qu'il y a de plus extraordinaire au cœur du jardin.
Merci à vous tous d'avoir participé à ce Téléphone Sonne et d'avoir dialogué avec les auditeurs. Je vous rappelle que sur la plateforme Radio France, vous pouvez réécouter en podcast aussi le reportage du magazine Interception du 25 mai dernier intitulé « Le pouvoir des fleurs, soignons nos âmes justement sans abîmer la planète ». Après 20h, les petits bateaux.